Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1.
13h, 14h.
Les carnets du monde.
Virginie Salmen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti, on ouvre ces carnets du monde. Les reporters d'Europe 1 ont baladé leur micro sur une bonne partie du globe aujourd'hui. En commençant par l'Europe, avec une situation inédite qui vient de se produire au Royaume-Uni. Une ministre de Boris Johnson était sur le point d'accoucher sans congé maternité possible. Elle a fait changer la loi. Le Liechtenstein, sans doute le pays le plus conservateur d'Europe, s'apprête à désigner une femme aux plus hautes fonctions du pays. Isabelle Horry l'a rencontrée, elle parle de sa vie privée et des droits des femmes. 6 pays d'Europe du Nord sur 8 sont désormais dirigés par des femmes. La sociologue politique Catherine Achin sera là pour nous éclairer. Est-ce une vague féminine ou un trompe-l'œil? Nous irons aussi au Pérou où 300 000 femmes ont été stérilisées, certaines de force, dans les années 90 sous prétexte de réduire la pauvreté. Et à Fukushima, 10 ans après l'accident nucléaire, les Japonais gardent les stigmates de la catastrophe dans leur vie quotidienne, on l'entendra. Et puis reportage en Irak pour la première visite d'un pape dans le pays. À Karakoche, la ville où la cathédrale avait été saccagée par les djihadistes. Dernière escale au Salvador avec un portrait du sulfureux président de 39 ans, vendeur de motos, casquette à l'envers sur la tête, jean et pied sur le bureau présidentiel. C'est aussi un autocrate redoutable qui aurait bien géré la crise sanitaire et le dossier sécuritaire. Les carnets du monde sont ouverts.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Parmi les droits qui restent à acquérir pour les femmes en ce début de 21e siècle, un congé maternité digne de ce nom pour celles qui s'engagent en politique. À travers le monde, beaucoup de femmes qui accèdent à des postes à responsabilité dans un gouvernement ou un parlement sont tout simplement privées de congés pour s'occuper de leur nouveau-né, même dans les pays généreux en la matière pour leurs citoyennes. Mais les choses commencent à bouger. Le mois dernier, le gouvernement britannique a accordé un congé maternité formel à ses ministres. On retrouve à Londres notre correspondante Anaïs Cordoba pour en parler. Bonjour Anaïs.
Bonjour Virginie.
Alors cette loi a été votée en urgence à la mi-février parce qu'il y avait une situation concrète à laquelle il fallait répondre. Une ministre de Boris Johnson était sur le point d'accoucher.
Oui, Suella Braverman, la procureure générale, c'est la ministre chargée des affaires juridiques du gouvernement. Légalement, elle aurait dû démissionner pour pouvoir prendre un congé maternité. Car le congé maternité pour un ministre, ça n'existait pas dans la loi. Et c'est la première fois qu'une ministre en poste va avoir un enfant. Alors, pour lui éviter de démissionner, la loi a donc été débattue et modifiée en une seule journée. Un moment historique pour les femmes en politique au Royaume-Uni. Écoutez la réaction de la maire du Parlement. C'est comme cela qu'on appelle ici la députée qui siège depuis le plus longtemps à la Chambre. Il s'agit d'Harriet Harman, 3 enfants et une longue carrière politique. Cette élue travailliste n'a jamais eu droit à un congé maternité digne de ce nom.
Les femmes font quelque chose d'extraordinaire quand elles ont un bébé. C'est une épreuve extrême pour le corps d'une femme que de porter un enfant. Et prendre soin d'un nouveau-né demande une énergie surhumaine. Et que fait-on quand ça arrive? Nous les punissons. Cette loi reconnaît désormais formellement que les femmes ont une valeur inestimable dans la vie publique et qu'elles ont des bébés et que nous devons les soutenir quand cela arrive, pas les déclasser. Ça nous a pris des lustres pour en arriver là, mais il vaut mieux tard que jamais.
Alors qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi concrètement?
Eh bien à partir de maintenant, les ministres femmes pourront prendre un congé maternité allant jusqu'à 6 mois en gardant 100% de leur rémunération. Pendant ce temps, leur poste sera occupé par un remplaçant ou une remplaçante. Un progrès historique pour les ministres, mais cette nouvelle loi ne prévoit rien en revanche pour les autres femmes politiques, les députés ou les autres élus locales. Écoutez donc la réaction mitigée de la députée travailliste Stella Crissy, l'une des figures de proue de la défense du congé maternité en Angleterre.
L'immense avancée de cette loi, c'est surtout la création d'un remplaçant pour la ministre, ce qui lui permettra d'être avec son bébé sans recevoir un appel à 3h du matin parce qu'on a besoin de la procureure générale. Mais cette loi ne va pas assez loin. Il y a 2 ans, quand j'attendais mon premier enfant, j'ai demandé aux parlementaires un remplaçant pour assurer mon travail dans la circonscription, pour que mes électeurs ne pâtissent pas du fait d'avoir comme députée une femme en âge de procréer. Et on m'a répondu que c'était trop compliqué à cause de notre statut.
Stella Crissy avait finalement obtenu une remplaçante à force de batailler, mais depuis, aucune autre députée n'y a eu droit, comme Ferial Clark, une jeune députée enceinte qui a aussi pris la parole pendant le débat.
C'est mon premier mandat en tant que députée et ça va être aussi ma première fois en tant que maman. Comme parlementaire, j'ai de belles opportunités et des privilèges et pourtant j'ai peur. J'accouche dans 2 mois et j'ai peur de prendre un congé maternité informel. Informel parce que pour les simples députés, rien n'est prévu légalement. J'ai peur que ça soit utilisé contre moi politiquement. Et le plus déprimant, c'est que derrière les chaleureuses félicitations, j'ai peur que certains de mes collègues me jugent parce que je prends un congé maternité.
Anaïs, pourtant, le gouvernement britannique a promis depuis longtemps maintenant de s'occuper du sort des parlementaires et des élus locaux.
Oui, mais ça traîne. La députée Stella Crissy a donc menacé le gouvernement de poursuites judiciaires. Écoutez son courageux discours devant tout le Parlement le jour de l'adoption du congé maternité pour les ministres.
Madame la Présidente, vous devez certainement penser que j'ai mangé trop de gâteaux pendant le confinement. Et vous avez probablement raison. Mais je suis aussi enceinte de mon deuxième enfant. C'est le début de ma grossesse et je ne devrais pas avoir à le révéler. Mais je le fais pour montrer à toutes les femmes enceintes dans ce pays qu'ici, on va les défendre. Les parlementaires doivent arrêter de se défiler. Nous devons accorder à toutes les femmes dans cet hémicycle le même droit que celui accordé à la procureure générale. Ce n'est pas un accident si la majorité des femmes dans ce Parlement, mais aussi dans les assemblées locales, sont souvent âgées avec des enfants déjà grands ou ont fait le choix de ne pas en avoir.
Depuis ça, Anaïs, est-ce que les choses ont bougé ?
Oui, quelques jours après ce débat, les autorités parlementaires ont enfin lancé une consultation au sujet d'un congé maternité pour les députés. Elle pourrait donc avoir gain de cause dans les prochains mois. Les élus réclament aussi qu'un congé paternité soit prévu pour les hommes politiques.
Alors, en France, qu'est-ce qui est prévu par comparaison en matière de congé maternité pour les femmes politiques ?
Eh bien, pour les ministres, rien. On se souvient de l'exemple extrême de Rachida Dati, ministre de la Justice, revenue à son poste 5 jours après la naissance de sa fille. En 2016, Axel Le Maire, ministre du Numérique, s'est arrêté 6 semaines, mais de manière tout à fait informelle. Les parlementaires, elles, ont obtenu le droit en 2018 d'être remplacées par leur suppléant en cas d'absence suite à une naissance. Mais pour les élus locaux, comme les maires, par exemple, rien n'est prévu pour leur remplacement.
Il y a encore donc un travail à faire pour les élus locaux. Merci beaucoup Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Merci Virginie.
Et une petite révolution pourrait avoir lieu dans un autre pays européen. Le dernier à avoir accordé le droit de vote aux femmes, c'était en 1984. Ce pays, c'est le Liechtenstein, 38 000 habitants, une principauté coincée entre la Suisse et l'Autriche. Dans ce micro-État catholique et très conservateur, une femme, une diplomate, brigue pour la première fois le poste de Premier ministre. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Virginie.
Cette femme, c'est vous qui l'avez rencontrée à Bruxelles, où elle était jusque très récemment l'ambassadrice du Liechtenstein auprès de l'Union européenne.
Oui, Sabine Monaoni a 46 ans. Elle était la tête de liste du parti conservateur aux élections législatives qui ont eu lieu le mois dernier. Les négociations pour former un gouvernement sont toujours en cours. Son modèle, c'est la néo-zélandaise Jacinda Ardern. Elles ont à peu près le même âge et elles sont toutes les deux mères de famille. Mais le profil de Sabine Monaoni est quand même très atypique pour ses compatriotes. Écoutez.
Chez nous, c'est très simple. On a le modèle familial classique, mais à l'envers. Mon mari est homme au foyer, à plein temps, et il me soutient. Je remarque qu'encore aujourd'hui, ça surprend souvent les gens au Liechtenstein qu'un homme renonce à sa carrière pour sa femme. Alors que d'innombrables femmes font ça. Mais voilà, c'est encore considéré comme un choix très, très original.
Alors Isabelle, comment dans un pays aussi conservateur et masculin, elle a réussi à se hisser à un poste aussi haut ?
Alors en fait, il y avait déjà eu des femmes ministres et puis voilà, elle est ambassadrice auprès de l'Union européenne. C'est un poste très prestigieux dans son pays, donc elle a déjà fait une belle carrière.
Est-ce que cette conservatrice atypique compte promouvoir les droits des femmes ?
Oui, mais alors à la liechtensteinoise, si j'ose dire, les mentalités évoluent très lentement. L'usage de la démocratie directe et un prince aussi très conservateur ne facilite pas les réformes. Mmh. Par exemple, le Liechtenstein est l'un des derniers pays d'Europe, avec Monaco, à ne pas autoriser l'avortement. Oui. Ce droit a été rejeté par référendum il y a 10 ans, rappelle la candidate première ministre.
La population avait dit non à l'avortement. Entre-temps, on a trouvé une solution pragmatique. On ne criminalise pas les femmes qui font une interruption volontaire de grossesse à l'étranger. Je crois que c'est un thème éthiquement difficile, émotionnel aussi dans notre pays. Mais pour le moment, c'est un sujet dont on ne parle pas.
Voilà, le sujet est mis sous le tapis. Et puis, sur d'autres aspects de l'égalité homme-femme, c'est pas facile non plus. Sabine Monaoni pense qu'il faut pas brusquer les électeurs et les électrices. Elle compte donc surtout faire avancer la cause des femmes par l'exemple.
Au Liechtenstein, on est très critique sur l'idée d'imposer des quotas de femmes. On a vu dans un référendum récent que même les femmes étaient contre l'idée que l'État s'en mêle et leur donne des avantages. Mais je suis quand même convaincue que ces thèmes vont revenir et la situation va s'améliorer, surtout si plus de femmes font de la politique.
Alors quand est-ce qu'on saura si Sabine Monaoni devient ou pas Première Ministre ?
Le nouveau Parlement se réunit pour la première fois le 25 mars. Elle avait quelques voix de retard sur son adversaire du Parti libéral quand même, donc c'est possible qu'elle ne soit que vice-première ministre cette fois-ci. Ça serait déjà une avancée notable, hein, vu le rythme auquel vont les choses au cœur des Alpes.
Merci beaucoup Isabelle Horry, à bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, 6 des 8 pays d'Europe du Nord sont dirigés par des femmes désormais. Pour en parler, une professeure de sciences politiques spécialiste du genre, Catherine Achin sera avec nous.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Et on poursuit notre exploration de l'état des droits des femmes en Europe. On a entendu il y a quelques minutes l'exemple frappant du Liechtenstein. Ça n'est pas le seul. 6 des 8 pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale sont désormais dirigés par des femmes. Le Danemark, l'Islande, la Finlande, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie. Ces pays sont-ils réellement en avance sur nous ? Est-ce une vague de pouvoir féminin ou est-ce un trompe-l'œil ? Nous sommes en ligne avec une professeure de sciences politiques spécialisée dans le genre, Catherine Achin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous enseignez les sciences politiques à l'Université de Paris. Marie-Dauphine, d'abord, est-ce que vous voyez une vague féminine ?
Elle est visible, vous l'avez énumérée, en Europe du Nord et dans les pays d'Europe centrale. Mmh. On assiste véritablement à une vague de féminisation, mais qui ne permet pas de modifier, je dirais, la part des femmes à tête des États à l'échelle globale, puisqu'on est toujours aux alentours de 10% et on stagne à cette faible proportion depuis déjà plusieurs décennies. En revanche, il est vrai qu'il se passe quelque chose en Europe du Nord, qu'on a une coïncidence, et en même temps, ces femmes qui arrivent à la tête des États en Europe du Nord, elles font plutôt partie d'une deuxième génération. Il y avait déjà eu une première vague de pionnières hein, qui avaient été élues, souvent au suffrage universel, à la tête de ces États, dès les années 80-90, en Finlande, en Irlande, en Norvège. Donc voilà, on a affaire plutôt à une deuxième génération, mais qui reflète effectivement la progression des femmes en politique à tous les niveaux dans ces pays d'Europe du Nord.
Et c'était le cas aussi ailleurs dans le monde, hein, cette première génération de pionnières, par exemple en Inde ou ailleurs ?
Même ailleurs dans le monde, les femmes avaient accédé à la tête des États avant même ces pays d'Europe du Nord, dès les années 60-70. Mais on avait affaire là à des figures assez singulières, à des figures plutôt de veuves ou d'héritières de grandes dynasties nationales et qui accédaient à ce poste à la place de leur époux assassiné ou de leur père décédé. Donc c'est par exemple Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Isabel Perón en Argentine. Donc c'était des figures assez singulières, mais on avait vu ensuite en Amérique du Sud, arriver des femmes à la tête des États sur leurs capitaux propres, que l'on pense à Michelle Bachelet au Chili ou encore à Dilma Rousseff au Brésil. En revanche, là, dans les années récentes, on a vu plutôt décliner la part des femmes, aussi bien en Asie qu'en Afrique ou en Amérique du Sud, au profit, en revanche, là, de la consolidation des carrières politiques et de la présence des femmes au sommet des États en Nouvelle-Zélande, comme en Europe du Nord ou Europe centrale.
D'accord. Donc là, dans les pays dont on parle, en Europe du Nord ou Europe centrale, est-ce que ce sont des pays qui ont mis en place des mesures, des quotas par exemple, qui auraient permis à ces femmes d'accéder au pouvoir ? Est-ce qu'il y a de vraies politiques mises en place ?
Alors, il n'y a pas de quotas pour l'accès à ces positions de l'exécutif. Le point commun entre ces pays, c'est souvent d'avoir été relativement précoce dans le fait d'accorder la citoyenneté politique aux femmes en même temps qu'aux hommes. Donc, Nouvelle-Zélande, Norvège, Finlande sont des pays qui ont accordé tôt le droit de vote aux hommes et aux femmes au début du XXe siècle. Donc la précocité d'un suffrage véritablement universel, à la différence d'autres États comme la France, hein, où on a eu un décalage très important entre la citoyenneté politique des hommes et celle des femmes, environ un siècle. Deuxième caractéristique de ces pays d'Europe du Nord, c'est qu'effectivement il y a des quotas pour la représentation politique des femmes, mais qui ont été plutôt des quotas mis en place par les partis politiques eux-mêmes pour favoriser la place des femmes et pas des quotas contraignants, légaux, comme la parité en France. Et puis peut-être que en lien avec ce qui s'est passé autour du débat sur le congé maternité des élus en Grande-Bretagne récemment, ce sont des pays aussi où il y a eu beaucoup de réflexions sur le statut de l'élu, sur les conditions d'exercice de l'activité politique, qui ont beaucoup travaillé sur des conditions qui permettent l'accès, un accès réellement démocratique à ces positions, avec beaucoup de règles, beaucoup de transparence, et qui autorisent de fait peut-être plus davantage les femmes femmes à accéder à ces positions.
Un dernier mot brièvement, est-ce que ces femmes récemment arrivées au pouvoir font avancer la cause des femmes, donc par exemple l'IVG ou l'égalité de salaire?
Alors là, voilà, c'est le point très important. Toutes ces femmes qui accèdent au pouvoir à tête des États, aujourd'hui comme hier, ne sont pas toutes féministes, loin de là, ne sont pas toutes progressistes. Alors, il y a un effet quand même de masse critique, un effet de seuil, là on le voit en Grande-Bretagne, hein, c'est un gouvernement conservateur qui essaie de mettre en place des mesures favorisant la continuité des carrières de femmes.
Le congé maternité.
Mais voilà, on peut donner l'exemple par exemple de la Pologne qui a eu 3 fois une femme à la tête de son gouvernement et qui, on le sait aujourd'hui, hein, est un des États les plus durs en termes d'accès au droit à l'avortement pour les femmes. Donc non, il n'y a pas de lien mécanique entre le fait qu'une femme arrive à la tête d'un État et la progression des droits des femmes dans l'ensemble de la société.
Mais les femmes ne travaillent pas toujours pour leur propre cause.
Voilà. Il faut qu'il y ait une masse critique et il faut qu'il y ait des convictions féministes portées par ces personnes en charge.
Merci beaucoup Catherine Achin, professeure de sciences politiques spécialisée dans les questions de genre à l'Université Paris-Dauphine. Et je rappelle que vous avez coordonné avec Laure Bérini le dictionnaire genre et sciences politiques aux presses de Sciences Po. Merci.
Merci à vous.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Les droits des femmes bafoués à un point inimaginable, c'est ce qui s'est produit au Pérou dans les années 90 quand le président Alberto Fujimori était à la tête du pays sous prétexte d'un programme de planification des naissances. Des femmes pauvres issues des populations amérindiennes ont été stérilisées de force, environ 300 000 femmes au total, programme qui revient dans l'actualité puisque 25 ans plus tard, l'ex-président Fujimori et 3 de ses anciens ministres de la Santé arrivent enfin devant la justice. Le juge en charge du dossier les a entendus toute la semaine et il décrit avec minutie comment ces centaines de milliers de femmes ont été obligées de subir une ligature des trompes. La correspondante d'Europe 1 au Pérou, Amanda Chaparro, a pu rencontrer l'une des victimes à Cusco. Voici son reportage.
Aurelia Pacowanka est originaire d'un petit village des Andes, près de Cusco, à 1 millier de kilomètres de la capitale. Elle a aujourd'hui 47 ans, mais se souvient comme si c'était hier, du jour où on l'a embarquée de force pour lui faire subir une opération de ligature des trompes. C'était en 1998, elle avait 24 ans et ne comprenait pas les termes médicaux que les médecins employaient.
Toi, tu ne dois plus avoir d'enfants, on m'a dit. Tu dois faire une ligature des trompes. Moi, je ne savais pas ce que c'était la ligature des trompes. Comment ça, vous ne savez pas, on m'a dit. Vous êtes une ignorante. Un jour, ils sont venus me chercher, j'étais sortie, ils m'ont trouvée sur le chemin et de force, ils m'ont fait monter dans l'ambulance. Je n'étais pas seule, il y avait d'autres femmes avec moi. Ils nous ont emmenées comme du bétail, puis ils m'ont allongée dans un lit et m'ont opérée.
Après l'opération, Aurélia est renvoyée chez elle sans aucun suivi post-opératoire. De langue maternelle quechua, la deuxième langue du pays, elle a été l'une des premières à dénoncer ces crimes dans un pays où la parole des femmes amérindiennes, qui plus est pauvres et peu écoutées. Elle se bat depuis des années pour faire condamner les responsables, au premier chef, le président de l'époque, Alberto Fujimori.
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune réponse. Nous avons envoyé des documents, des témoignages, au parquet, partout. Nous, on veut la justice. L'État doit nous reconnaître comme victimes. C'est l'État qui nous a envoyés nous faire stériliser. C'est à lui de nous reconnaître. Et que les fujimoristes cessent d'occulter les faits.
L'audience de cette semaine fait renaître l'espoir d'un futur procès au pénal qui pourrait enfin, 25 ans après les faits, condamner les responsables de cette politique.
Et on retrouve Amanda Chaparro, correspondante d'Europe 1 au Pérou. Bonjour.
Bonjour.
Alors comment cette politique, Amanda, présentée comme une politique de santé reproductive, a pu être mise en œuvre? Comment 300 000 femmes pauvres ont pu être stérilisées?
Cette politique, c'est l'œuvre d'Alberto Fujimori et de ses ministres de la Santé pendant les années 1995 et 2000. C'est Fujimori qui l'a impulsée et exécutée. Elle faisait partie d'un programme de planification familiale officiellement présenté pour que les femmes puissent avoir accès à une contraception et choisir de ne plus avoir d'enfants. Ça faisait partie d'un plan plus large pour réduire la pauvreté en contrôlant la natalité. Mais dans les faits, les témoignages concordent pour affirmer qu'une grande majorité des femmes ont en réalité été forcées. Les stérilisations s'effectuaient sous la menace, le chantage ou encore par la violence. Et celles qui ont accepté ne le faisaient pas toujours en connaissance de cause, Beaucoup ont signé des documents soi-disant se portant volontaires, mais sans savoir ce qu'ils contenaient, car beaucoup de femmes paysannes étaient analphabètes. Il y avait donc plusieurs méthodes pour parvenir à ces stérilisations. Mmh. C'est ce que nous décrit Maria Esther Mogollon. Elle est coordinatrice de l'association des femmes affectées par les stérilisations forcées.
Il y avait différents mécanismes, des moqueries, des menaces. Par exemple, d'emprisonner leur mari ou de ne pas enregistrer la naissance de leurs enfants au poste de santé. Au moment de l'opération, celles qui résistaient avaient les pieds et les mains liés. Elles étaient attachées avec des cadenas. Les opérations étaient effectuées dans des conditions de salubrité qui laissaient largement à désirer. Ce fut une politique raciste, discriminatoire, une violation des droits des femmes.
Alors Amanda, comment on explique que 25 ans après les faits, personne n'ait encore été condamné ?
D'abord, cela touchait des femmes amérindiennes, pauvres, dont beaucoup ne parlaient pas l'espagnol. Donc leurs témoignages ont mis du temps à arriver. Ces femmes aussi étaient considérées comme subalternes et elles ont souffert du racisme de la société péruvienne. Ensuite, autre raison fondamentale, c'est que les principaux accusés, Alberto Fujimori en tête, ses ex-ministres de la Santé et le courant fujimoriste en général, sont encore très influents au Pérou. C'est ce que nous explique Rocío Silva Santisteban, féministe et députée de gauche au Congrès.
Les responsables de cette politique, qui est selon moi une politique génocidaire, sont des personnes qui sont encore au pouvoir. L'ex-ministre de la Santé, Alejandro Aguinaga, est candidat aux prochaines législatives du 11 avril pour le parti Fuerza Popular, le parti des Fujimoristes. La fille de Fujimori est candidate à la présidentielle et elle a 7% des intentions de vote, ce qui est ici la place des seconds. Autrement dit, elle pourrait passer au second tour. On parle donc de personnes qui sont très actives politiquement, qui ont des réseaux, beaucoup de pouvoir et qui ont fait tout leur possible pour que ce dossier soit invisibilisé.
Et donc ceux qui ont perpétré ces stérilisations, en tout cas leur entourage, sont toujours au pouvoir. Où en sont aujourd'hui les procédures judiciaires ?
Eh bien, les audiences vont se poursuivre dans le courant du mois de mars. Ensuite, un juge d'instruction pourrait être désigné, ce qui serait une première dans ce dossier. Cela ouvrira enfin la voie à un futur procès pénal, ce qui sera sans aucun doute le plus grand de l'histoire du Pérou par le nombre de victimes. Mmh. Les avocats, de leur côté, espèrent voir requalifier les charges qui pèsent sur Fujimori et consorts comme crimes contre l'humanité.
Merci Amanda Chaparro pour ce récit passionnant de la stérilisation de 300 000 femmes amérindiennes au Pérou dans les années 90 et à bientôt dans les carnets.
À bientôt, merci.
Dans un instant, un peu de musique d'ailleurs. Angèle Châtelier nous fait découvrir de la folk suédoise.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Et c'est l'heure d'une musique dans le monde. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Virginie.
Alors aujourd'hui vous nous emmenez en Suède.
Oui, avec l'une des références de la musique folk, José González. José González a vécu la plupart du temps en Suède, mais son sang est argentin, d'où viennent ses parents, pays qu'ils ont quitté en 1976 après le coup d'état militaire. Alors lui est né en Suède 2 ans plus tard, et dans ce nouveau titre, El Invento, sorti il y a quelques semaines, c'est la première fois qu'il chante en espagnol, un titre inspiré par sa fille. Car la musique de José González, c'est ça, profondément humaine et faite de grands questionnements. Mais alors parfois, comme il le chante dans l'un de ses tubes, Stay Alive, il y a des choses que les hommes et les femmes ne peuvent pas savoir.
Alors qu'est-ce que c'est ces choses que les hommes et les femmes ne peuvent pas savoir ?
Eh bien toutes les interrogations les plus philosophiques, pourquoi sommes-nous, où allons-nous, qui suis-je et dans quelle étagère ? Alors c'est vertigineux, oui, des questions presque enfantines, mais desquelles même nous adultes, nous n'avons pas les réponses. Alors parfois on a juste envie de tout envoyer valser, ce que José González nous invite à faire dans son titre « Step Out ».
Breathing. José González a commencé sa carrière il y a presque 20 ans. La musique, il l'a toujours eu dans le sang. Avant de faire du folk, il était plutôt branché punk, hard rock.
Ah oui.
Oui, mais c'est en 2003 qu'il a sorti son premier album appelé Venir, comprenez, vernis, comme celui qu'il met sur le monde avec sa musique. So, how's it gonna be? When it all comes down, recycling triviality. Et vous allez sûrement reconnaître Virginie dans cet album. José González reprend aussi une chanson phare, c'est Teardrop de Massive Attack.
Ah ouais, c'est surprenant. Oh, c'est marrant.
Ça change.
Et alors, et depuis 2003 et cet album,
eh bien, il y en a un dernier qui est sorti en 2015, Vestige and Close, plébiscité par la critique. Des chansons parfaitement arrangées pour un feu de camp chanté, nous dit le Pitchfork, prestigieux webzine musical. Je dirais même un disque parfait pour méditer.
C'est une bonne ambiance feu de camp. D'ailleurs, c'est le moment, hein, ce moment, de faire des petites sorties, des petits apéros dehors plutôt que dedans. Merci beaucoup.
Merci
Angèle Châtelier.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Retour dans les carnets du monde sur Europe 1. C'était le 11 mars 2011 au Japon. Jeudi, ça fera donc 10 ans jour pour jour. À 14h46, se produit le plus important séisme jamais mesuré au Japon, de magnitude 9, puis une vague de plus de 13 mètres, un tsunami qui inonde la centrale de Fukushima et provoque un arrêt des groupes électrogènes de secours, puis entraîne la fusion totale du cœur d'au moins deux réacteurs de la centrale nucléaire. Une triple catastrophe qui fait au total 22 000 morts et disparu. 10 ans plus tard, quels sont les stigmates de cet accident dans la vie quotidienne des Japonais? Nous sommes en ligne avec Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Bonjour Bernard.
Bonjour Virginie.
Vous êtes allé à la rencontre des Tokyoïtes. Est-ce qu'ils subissent encore les conséquences de cette catastrophe aujourd'hui?
Eh bien, c'est ce que j'ai demandé aux Tokyoïtes qu'on va entendre. En quoi, très concrètement, au jour le jour, votre existence a-t-elle changé depuis le 11 mars 2011?
Après Fukushima, j'ai fait faire des travaux pour renforcer ma maison. On a placé des piliers de soutènement, par exemple. On a aussi fixé toutes les armoires au mur pour éviter qu'elles ne basculent et me tombent dessus s'il y a une forte secousse. Et puis dans mes placards, j'ai désormais toujours de quoi manger pendant une semaine, au cas où il y aurait un méga séisme et on ne trouverait plus grand-chose dans les magasins. C'est ce qui s'est passé il y a 10 ans.
J'ai préparé un sac au cas où je dois quitter ma maison en catastrophe. Regardez, j'ai mis mes médicaments, une petite radio, une couverture de survie. Mais j'ai 68 ans, donc je marche lentement. Peut-être que je n'aurai pas assez de temps pour me mettre à l'abri. Dans ce cas, je resterai à la maison, je prierai et le destin décidera de mon sort. Cela dit, je suis d'un naturel optimiste, alors je me refuse à envisager le pire.
Depuis 2011, ma mère et moi, au supermarché, on achète systématiquement les produits de Fukushima. Le riz, par exemple, pour aider ces petits producteurs.
Après tout ce qu'ils ont enduré, ça nous paraît normal de les soutenir. D'autant que 10 ans plus tard, leur vie n'est toujours pas facile.
Dorénavant, les enfants sont autorisés à amener un smartphone à l'école pour que leurs parents puissent les joindre après un tremblement de terre. C'était pas le cas en 2011 et ça me rassure. Le jour venu, je pourrais vérifier que ma fille va bien. Pour autant, je ne passe pas non plus mes journées à stresser, hein, ce serait invivable.
À l'école, deux fois par mois, ils font une simulation. Les sirènes retentissent, les enfants s'abritent sous leur pupitre. Quand la terre a cessé de trembler, ils enfilent leur chasuble de protection ignifugée et courent se réfugier en haut d'une colline toute proche. Je trouve ça bien. Quand le méga séisme surviendra, ma fille aura les bons réflexes, même si je ne suis pas avec elle.
On l'entend, Bernard, Fukushima est encore très présent dans le quotidien des Japonais, y compris à Tokyo. Et on l'entend, ils parlent au futur et pas au conditionnel. Ils ne disent pas si jamais une nouvelle catastrophe majeure survient, mais le jour où elle se produira. Est-ce que les Japonais ne se font vraiment pas d'illusions? Ils en sont sûrs, l'histoire va immanquablement se répéter?
Ah oui, et pour cause, les scénarios catastrophes des experts font vraiment froid dans le dos. Selon eux, il y a 80% de risque que dans les 30 ans à venir se produise un séisme aussi fort que celui de Fukushima. Et il serait suivi d'une vague encore plus haute que celle de 2011, elle pourrait atteindre 30 mètres. Bilan, 320 000 morts.
Et le cas échéant, ce tsunami ne déferlerait pas sur le nord-est du Japon comme en 2011, mais plutôt sur le sud du pays. Donc la région de Fukushima serait épargnée cette fois, ce qui permettrait de ne pas risquer une deuxième catastrophe nucléaire.
Oui, parce que cette centrale est tellement délabrée que rien ne dit qu'elle résisterait à un nouveau tsunami. Et ça paraît plus évident que jamais depuis le 13 février. Il y a trois semaines, la région de Fukushima a été secouée par un séisme de magnitude 7.3. Eh bien, il a causé des dégâts au site nucléaire. De l'eau radioactive s'est déversée des piscines de la centrale où l'on stocke, pour le refroidir, le combustible nucléaire qui est entré en fusion il y a 10 ans, parce que ces piscines ont débordé tellement la terre a tremblé. De l'eau a également fui de l'enceinte de confinement de deux réacteurs, sans doute parce que la secousse les a fissurés. Or, ces enceintes contiennent elles aussi des débris radioactifs bouillants qui risquent de surchauffer dès qu'ils ne sont plus immergés. Et puis, toujours dans ces enceintes, la pression a anormalement diminué. Et ça, ça fait courir un risque d'explosion d'hydrogène. Enfin, des citernes dans lesquelles on stocke 1 million de tonnes d'eau provenant de la centrale ont été ébranlées. Tout ça donc à cause de ce tremblement de terre de la mi-février. Et il y a quelques années déjà, la centrale avait été endommagée par de violents typhons. Bref, rien ne dit qu'elle résistera à une deuxième catastrophe naturelle majeure si elle se produit.
Et le problème, c'est que le démantèlement de cette centrale va prendre 30 à 40 ans. Donc, en attendant, c'est une fameuse épée de Damoclès qui pèse sur les Japonais. Ça les inquiète, ça, Bernard ?
Bien sûr. Après, à plus court terme, il y a autre chose qui les préoccupe énormément. L'an prochain, le gouvernement va sans doute donner son feu vert au rejet dans l'océan Pacifique de toutes ces eaux donc qui proviennent de l'intérieur de la centrale et qui sont entrées en contact avec les débris et le combustible nucléaire radioactif. On n'a plus de place pour les stocker sur le site, donc on doit s'en débarrasser. Pour les autorités, les rejeter à la mer serait sans danger, puisque ces eaux ont été traitées, on les a purifiées en quelque sorte. On a enlevé tous les radionucléides qu'elles contenaient, sauf deux, mais qui ne seraient pas très dangereux, le tritium et le carbone 14. Problème, cette explication ne convainc pas du tout les Japonais. D'après tous les sondages, ils sont très très hostiles à ce projet de rejet en mer, à l'image de ces tokyoïtes.
Si on fait ça, ce sera le coup de grâce donné à des habitants de Fukushima qui ont déjà beaucoup souffert ces 10 dernières années. Les pêcheurs, par exemple, qui voudra encore acheter leur poisson quand on aura rejeté tout ce tritium à la mer? Ils seront invendables, tout le monde se méfiera. Et ce sera le drame aussi pour les stations balnéaires de la région. Quel touriste osera venir se baigner dans une mer dont l'eau pourrait être contaminée? Bref, j'aimerais vraiment qu'on y réfléchisse à deux fois avant de franchir ce pas.
On nous dit que ce sera sans danger pour l'environnement ou la santé. Mais en 2011, l'opérateur de la centrale a minimisé l'accident nucléaire. Peut-on le croire du coup ?
Alors Bernard, comment se passe la reconstruction de la région ? Est-ce que ça avance ? Et le taux de radiation sur place, est-ce qu'il est revenu à la normale ?
Oui, sauf dans une zone qui s'étend sur 350 km². Pour vous donner une idée, c'est 4 fois la superficie de Paris environ. Eh bien là, on ne peut toujours pas habiter, car le taux de radiation reste trop élevé. Ce sont des no-go zones, si vous voulez. Alors, 350 km², ça fait 2% du territoire de la région de Fukushima. C'est 6 fois moins que la zone que l'accident nucléaire avait rendue inhabitable il y a 10 ans. Donc oui, la décontamination a vraiment bien progressé. En ce qui concerne la reconstruction, 9 chantiers sur 10 sont achevés. Le problème, c'est que les gens qui avaient dû quitter la région il y a 10 ans tardent à s'y réinstaller. Beaucoup ont refait leur vie ailleurs. Sur place, il n'y a pas encore énormément d'hôpitaux, de centres commerciaux, de crèches, etc. Du coup, bien sûr, ça n'emballe pas grand monde d'y habiter. Et d'autant moins que beaucoup de gens n'y croient pas, ne croient pas au taux de radiation officiel. Ils sont convaincus qu'on leur cache des choses. En clair, ils sont sûrs que ce taux, en fait, est beaucoup plus élevé. Donc, ils se disent qu'ils mettraient leur santé en danger s'ils revenaient à Fukushima. Ça explique qu'un quart des 160 000 habitants qui ont dû fuir la zone en 2011 n'y sont toujours pas revenus 10 ans plus tard. Et cette dépopulation handicape, évidemment, le redécollage de la région.
Merci beaucoup Bernard Delattre d'avoir fait parler des Japonais au micro européen des Carnets du Monde, 10 ans après cette catastrophe historique. Et à bientôt dans les Carnets.
Merci à vous Virginie, à très bientôt.
Dans un instant, destination l'Irak, dans la ville de Karakoch, où les chrétiens se réinstallent après des années d'occupation sous le joug de Daesh.
Europe 1, les Carnets du Monde. Virginie Salmen.
C'est la première fois qu'un pape se rend en Irak malgré les violences et la pandémie de Covid-19. Le pape François est en visite dans le pays depuis vendredi et jusqu'à demain. Le convoi papal devrait être seul sur les routes d'Irak. Confinement oblige, où il parcourra 1500 km. Des routes refaites pour l'occasion. Les autorités à Bagdad assurent avoir pris toutes les mesures de sécurité terrestre et aérienne. Le pape François est venu réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, anéantie notamment par les années Daesh.
De 2014 à 2017, quand les djihadistes ont pris la plaine de Ninive, bastion des chrétiens dans le nord du pays, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini, s'est rendu à Karakoche, la ville dont la cathédrale de l'Immaculée Conception avait été saccagée par Daesh. Il y a rencontré une famille chrétienne, Majida, Issa et leur fille Adraa, qui ont choisi de revenir après le départ des islamistes. Reportage.
C'est un bien étrange son de cloche qui rythme la vie des fidèles de la paroisse Saint-Joseph. Leur église, entièrement démolie par Daesh, est en train d'être reconstruite et le clocher n'est pas encore achevé. Ce sont des haut-parleurs au son saturé qui reproduisent l'appel à la prière du soir. Une prière qui se fait au sous-sol en attendant de pouvoir pratiquer dans de meilleures conditions. Mais cela ne gêne pas Majida, une mère de famille de Karakoche.
Nous nous moquons de l'état de notre église tant que nous pouvons célébrer nos messes. C'est pareil que nous soyons au sous-sol ou dans l'église. Bien sûr que ça nous fait mal au cœur de voir cette église comme ça, mais nous ne pouvons pas aller plus vite. L'essentiel est que nous prenions soin de nous-mêmes pour entretenir notre foi en Jésus. Nous sommes l'âme de l'église d'Orient. Ça vaut plus qu'un bâtiment.
Tous les soirs de la semaine ou presque, elle assiste à une messe chantée en langue syriaque ou en araméen, la langue du Christ. Autour d'elle, une centaine de personnes revenues vivre leur foi ici, après le départ des djihadistes en 2017. Un retour que son mari, Issa, perçoit comme une victoire et une présence qu'il faut ancrer profondément. Alors pour ça, il n'a rien changé à la pratique de sa religion.
Tout ce qui nous guide, c'est l'amour de Jésus. Oui, bien sûr, nous avons perdu tous nos biens, nos maisons aussi. Mais il y a quelque chose de bien plus grand que ça. C'est notre amour pour cette terre d'Irak. C'est ça qui fait qu'on se tient debout, ici, chez nous.
Une victoire qui reste fragile, chacun en est conscient. Les esprits ont été marqués au fer rouge par l'idéologie de l'État islamique. Vivre sous leur joug a implanté la haine pour longtemps et le monstre peut se réveiller à tout moment. Le père Stéphanos évoque ce qu'il décrit comme des réactions de certains musulmans, une forme de haine insidieuse qu'il a du mal à comprendre.
Le fait est que certains d'entre eux considèrent encore que le christianisme n'est pas une religion. Nous ne pouvons pas changer leur idéologie, mais on leur demande d'y repenser à deux fois. Nous aussi, nous avons notre propre idéologie, mais là, on parle de leur esprit, qu'ils essaient de tourner leur esprit vers la paix.
La paix du Christ ou celle d'Allah, qu'importe pour Adraa. À 18 ans, la jeune fille tente de garder le contact avec ses cousins qui ont fui, loin, en Europe ou ailleurs. Un contact de plus en plus difficile à entretenir, tant le fossé s'est creusé avec les exilés. Elle regrette que, comme elle et ses parents, ils n'aient pas choisi de revenir pour préserver leur terre. Elle souffre aussi du regard qu'ils portent sur elle et les chrétiens restés en Irak.
Ceux qui sont partis vivent en Australie, au Canada. Quand ils reviennent nous voir, ils se plaignent de tout. Des serveurs dans les cafés, de la propreté. J'ai envie de leur dire, ne parlez pas comme ça. Ne dites pas que c'est sale ou que les gens ne respectent rien. J'aimerais qu'ils respectent un peu plus ce que nous sommes. Ce serait bien qu'ils arrêtent de nous parler de leurs droits de l'homme. Parce qu'ici, nous n'avons pas ça.
C'est bien ce qui tourmente ces populations syriaques désormais. Envisager l'avenir. Alors oui, les conditions d'exercice de leur culte sont parfois inconfortables, mais au moins, ils ont le sentiment de pouvoir prier en sécurité. Ce qui ne va pas selon eux, c'est de ne pas avoir de perspective pour leur jeunesse. Pas d'emploi, pas de formation. Ils en appellent au gouvernement pour qu'il agisse afin de pérenniser les populations chrétiennes dans la région. Karakoche, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Nous vous emmenons maintenant au Salvador, petit pays d'Amérique centrale où le jeune président de 39 ans détonne dans le paysage politique. Nayib Bukele ressemble à un rappeur avec une casquette blanche vissée à l'envers sur la tête. C'est un ancien vendeur de motos, représentant de Yamaha au Salvador. La correspondante d'Europe 1 en Amérique centrale est en ligne avec nous pour nous brosser son portrait. Bonjour Laurence Cuvillier.
Bonjour Virginie.
Depuis son élection il y a un an, Nayib Bukele instaure un régime populiste on ne peut plus autoritaire avec de nombreuses contradictions, on va le voir, et une popularité insécurité croissante. Ces dernières semaines, il étend son pouvoir à vue d'œil. Il vient de remporter les législatives par un impressionnant raz-de-marée. D'abord, d'où vient-il, Nayib Boukele ? Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir ?
Eh bien, déjà, c'est quelqu'un qui aime l'action. Ses premiers pas en tant qu'entrepreneur, il les a fait à 18 ans en fondant une discothèque. Il a par la suite été directeur d'une agence de communication, entre autres activités qui lui ont assuré de confortables revenus et de très bonnes connexions. À noter aussi qu'il est le fils d'une mère catholique et d'un père musulman d'origine palestinienne qui a fondé quelques-unes des premières mosquées en Amérique centrale. Il a peu à peu gravi les échelons de la politique, d'abord maire d'une petite ville de province, puis de la capitale, San Salvador, sous la bannière du parti de gauche, le FMLN, avant de faire tout voler en éclats et de fonder son propre parti en vue des élections présidentielles de 2019.
Alors, qu'est-ce qui explique sa popularité ?
Bon, il faut comprendre que le Salvador était fossilisé politiquement depuis la fin de la guerre civile en 1992. En fait, c'était un continuel balancier entre deux partis politiques qui ont tous les deux tiré sur la corde de la corruption en enchaînant les scandales de malversation, les détournements de fonds, etc. En fait, pour schématiser, il y avait le parti de gauche, le FMLN, issu des groupes de guérilleros marxistes qui défendaient les intérêts des plus démunis pendant la guerre civile, et le ARENA, le parti de droite, dans les rangs duquel se sont assis confortablement des hauts gradés militaires qui ont plus ou moins passé ces années à cacher ou voire à nier les exactions commises par l'armée pendant le conflit. Et les Salvadoriens, il faut bien le comprendre, étaient épuisés, écœurés par les promesses déçues de l'après-guerre. Et c'est pour ça que Nayib Bukele a tout misé sur le thème du renouveau. D'ailleurs, le nom de son parti, c'est Nuevas Ideas, Nouvelles Idées en espagnol. Pourtant, dans ses méthodes, mais on a constaté depuis qu'il tenait tout autant d'un caudillo que d'un hipster, en témoigne le coup de force qu'il a fait à l'Assemblée en février 2020 quand il a voulu forcer le vote d'un budget sécuritaire en arrivant dans l'hémicycle accompagné d'un impressionnant escadron de policiers et de militaires.
Oui, effectivement. Alors ce président très exubérant semble qu'il ait plutôt, paradoxalement, bien géré deux dossiers, la crise sanitaire et l'insécurité dans le pays. Est-ce que c'est bien le cas, Laurence ?
Alors, la crise sanitaire, oui, on peut lui reconnaître un certain succès avec moins de 2000 morts au compte officiel, mais on estime qu'il serait largement sous-estimé. Toutefois, ça a été au prix d'un confinement très sévère et presque sans compensation financière. Quant à la crise sécuritaire, alors là, il y a une surface très jolie, mais un fond vraiment trouble. Pour le contexte, le Salvador, en 2015, c'était le pays le plus dangereux au monde. Pour vous donner un chiffre, cette année-là, plus d'une personne sur 1000 fut victime d'homicide dans le pays. Le meurtre était la principale cause de mortalité. Et en 2020, ce taux de criminalité a été divisé par 5. Alors, c'était effectivement un grand succès, mais comment y est-il arrivé ? Eh bien, en envoyant des hauts fonctionnaires négocier directement en prison avec les chefs des maras, ces bandes de délinquants sanguinaires qui terrorisent le pays. Il leur a offert de meilleures conditions de détention et leur a demandé en échange, premièrement, de dire à leurs troupes d'avoir la gâchette moins facile et deuxièmement, de lui assurer un appui électoral lors des élections législatives qui viennent d'avoir lieu. Et il faut savoir que les maras sont extrêmement influents dans les quartiers pauvres. Bref, en réduisant les homicides, il a aussi donné plus de poids politique à des criminels.
Effectivement, donc une façon de faire de la politique vraiment à l'image qu'il renvoie. Des députés d'opposition mettent en cause la santé mentale de Bukele. Ils disent soit nous sommes face à un délinquant, soit un fou, un aliéné qui ne jouit pas des facultés mentales pour exercer ses fonctions. Est-ce que ça fait polémique dans le pays ?
Oui, bon, je pense que cette déclaration tient plus de l'effet de manche politique, mais j'aurais plus tendance à le définir par une expression lâchée par un chauffeur de taxi avec qui je discutais à San Salvador il y a quelques semaines. Il me disait « Bukele, c'est un dalmatien ». En fait, il a l'air blanc, mais il est couvert de taches noires.
Merci Laurence Cuvillier, correspondante d'Europe 1 en Amérique centrale. À bientôt dans les carnets du monde.
Merci Virginie, au revoir.
Dans un instant, notre rendez-vous en Autistan avec Joseph Chovanec.
Europe 1, les carnets du monde. Virginie Salmen.
Dernière balade des carnets en autistant en compagnie de Joseph Chovanec, philosophe, autiste Asperger et voyageur. Cette chronique, c'est une façon de regarder le monde avec curiosité et poésie. Bonjour Joseph.
Bonjour Virginie, bonjour à tout le monde.
Alors pour vous, le voyage n'est pas que géographique, il a une deuxième dimension, le voyage dans le temps.
Oui, Virginie, chaque culture, chaque ville a une façon différente de gérer cette deuxième dimension dans le temps. Parfois, tout simplement, on efface le passé. Et à la réflexion, c'est l'une des choses les plus désespérantes, par exemple dans le cas de Paris. Paris était l'une des plus grandes villes médiévales d'Europe, mais nulle part on ne peut s'y sentir au Moyen-Âge aujourd'hui, entouré de bâtiments d'époque. Tout a été détruit, le Grand Châtelet, le Petit Châtelet, le Gibet de Montfaucon, etc.
Donc pas de voyage dans le temps à Paris.
Non, effectivement, mais certaines autres villes, je pense à Prague, Tallinn, conservent un centre-ville historique, où il y a des maisons d'un âge vénérable. Mais il y a la foule des touristes aussi, les restaurants, les magasins de souvenirs, tout ça gâche le voyage dans l'histoire. Sans compter le goût assez étrange que laisse en bouche le fait d'être sur un îlot historique, enserré dans des kilomètres de maisons modernes, souvent sans âme. Ce dilemme déprimant m'a donné beaucoup à réfléchir. En voyageant, je crois enfin avoir trouvé une solution idéale. C'est quand la ville nouvelle est construite à côté de la ville ancienne. Et j'ai compris l'astuce l'été dernier. J'étais en balade à Uppsala, c'est la capitale intellectuelle de la Suède, ville universitaire. À Uppsala a tout ce qu'il faut pour une vie moderne, logement, université, et même le mythique jardin de Linné, le père de la botanique. Mais en regardant la carte, j'ai été intrigué par l'existence à côté de la ville d'Uppsala, à quelques kilomètres, d'une autre entité plus petite, dénommée Gamla Uppsala, littéralement la vieille Uppsala. Et j'ai donc aussitôt résolu de m'y rendre.
Bien sûr, on vous reconnaît bien là.
Voilà, à quelques kilomètres de la ville récente, dans la campagne, on croit soudain plonger dans le Moyen-Âge scandinave. Et l'église de Gamla Uppsala est particulièrement marquante, avec l'espèce de maladresse architecturale des plus vieux édifices.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par la maladresse architecturale?
Par exemple, les angles qui ne sont pas droits, ce n'est pas tout à fait symétrique. L'édifice reste de très petite taille. Ouais, on voit les efforts manuels désespérés. On croirait les Vikings surgir. En demeurant tout autour de l'église, se trouvent des espèces de monticules de terre, d'herbe avec des tombes de princes des âges sombres. Le tout dans un cadre bucolique, peu de monde, une authenticité remarquable. On oublie très vite la grande ville moderne que l'on ne voit d'ailleurs pas derrière l'horizon.
Et vous avez découvert le même type d'agencement urbain dans d'autres pays que la Suède ?
Oui, par exemple aux Pays-Bas ou en Flandre, j'ai vu des choses similaires, toujours sur le même principe. Il y a la ville nouvelle et à côté, une ville portant le même nom mais ancienne et bien sûr plus petite. Prenons le cas de la grande ville universitaire de Louvain. Elle a une espèce de faubourg qui s'appelle Heverlee, qui est désormais tout à fait fusionné avec la ville. Un peu plus loin, on peut découvrir le vieux Heverlee, en flamand Oud Heverlee, et qui a un cachet absolument inimitable, je dirais même un charme fou, surtout les matins d'hiver, quand il y a des brumes qui s'attardent entre les étangs et les quelques vieilles maisons. Mon autre exemple préféré, c'est dans l'embouchure de l'Escaut, pile sur la frontière Pays-Bas-Belgique. Il y a une localité qui s'appelle Doel. Elle a des usines, le gigantesque port d'Anvers est juste à côté, une centrale nucléaire, bref, pas très réjouissant. Mais un peu plus loin, dans la lande, il y a le minuscule village du vieux Doel, le Oude Doel, où le temps semble s'être arrêté. Bien sûr, on ne peut que rêver d'habiter dans un tel endroit. Mais je crois que ça ne s'achète pas. Personne ne vendra sa maison là-bas. Comme le dirait un dicton flamand, « Met het flütchen gewonnen, met het rommelchen verteert ». Ce que l'on obtient d'un sifflement, ça part au son du tambour. Ceux qui s'acquièrent vite part vite. Il en faut beaucoup plus que de l'argent pour pouvoir voyager dans le temps.
Vous excellez dans le dicton flamand. Merci beaucoup Joseph Chovanec pour cette balade poétique. Et à la semaine prochaine avec Sophie Larmoyer.
À tout bientôt, merci.
C'est le moment de refermer les carnets du monde. Dans un instant, ce sera de la littérature sur Europe 1 avec vous, Nicolas Carreau. Bonjour.
Bonjour Virginie.
Quel est le programme de La Voix et Livre aujourd'hui?
Je reçois un écrivain que j'aime beaucoup, David Thomas. Et en plus, c'est la première fois que je le rencontre, donc j'ai un peu le trac. Et ensuite, on part visiter la bibliothèque de Charles-Élie Couture. Voilà.
Et voilà le programme. Merci Nicolas Carreau pour La Voix et Livre. On vous retrouve dans un instant. La semaine prochaine, c'est Sophie Larmoyer qui revient aux manettes des Carnets du Monde. Merci à Marion Gauthier et Marc Fréjean qui m'ont aidé à préparer cette émission. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.